Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Chinali Kamara.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Judith Suminwa Tuluka a ouvert hier à Kinshasa les travaux de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano, placé sous le thème « Les contrats du Congo, l'heure du choix ». Ces assises réunissent durant deux jours des personnalités majeures de la vie publique et économique de la RDC. Lancement ce mardi à Beni au Nord Kivu de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Des centaines de femmes ont été sensibilisées à prendre le courage de dénoncer les abus et violences dont elles sont victimes afin de décourager leurs auteurs. Face à la mauvaise qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile au Maniema, le député provincial de Kindu Blaise Bitangalo, qui est l'invité de ce journal, interpelle ces entreprises à travers une motion incidentielle sur leur responsabilité d'améliorer la qualité du réseau et de mettre fin aux pratiques qu'il qualifie d'escroquerie. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert ce mardi 25 novembre 2025 à Kinshasa les travaux de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano, placé sous le thème « Les contrats du Congo, l'heure du choix ». Ces assises réunissent durant deux jours des personnalités majeures de la vie publique et économique de la RDC. Au menu, quatre grands talks stratégiques marquent les échanges « Gouvernance, mines, énergie et transport ». Des décideurs, experts, investisseurs et acteurs du changement analysent et débattent et orientent les choix structurants de demain. Comment bâtir une économie connectée, compétitive et souveraine? C'est l'un des enjeux majeurs de la 11e édition du Forum international des affaires Makutano initié par Madame Nicole Soulo. Dans son mot des circonstances, Judith Suminwa a salué l'initiative de Makutano qu'elle estime être noble et indispensable avant de mettre un accent particulier sur la diversification de l'économie en RDC et la transformation locale, notamment dans les secteurs miniers. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
Les mines pour nous doivent être un accélérateur et pour nous il est important d'aller vraiment vers la diversification de cette économie et pour ça je l'ai dit, nous devons aller vers une transformation locale, ajouter une valeur, vraiment travailler sur une valeur ajoutée sur nos minerais. C'est un processus. On ne va pas demander à toutes les entreprises minières aujourd'hui d'arrêter d'exporter du jour au lendemain pour aller à leur transformation, mais nous insistons, mettons-nous d'accord sur un processus qui va nous permettre d'ajouter de la valeur ajoutée à ces minerais et que demain, notamment dans le cadre de la transition énergétique, pourquoi pas aller effectivement vers cette production, c'est un exemple de batterie, aller effectivement vers des produits semi-finis qui vont rajouter une valeur chez nous et qui vont nous permettre de créer plus d'emplois.
Comme vous le savez peut-être, la RDC va participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui commence dans trois semaines au Maroc. Mais elle ne compte pas se limiter à mettre en avant ses talents footballistiques. Kinshasa entend profiter de cette vitrine pour plaider en faveur du retour de la paix sur son territoire tout en mettant en avant le potentiel culturel et économique du pays. Pour ce faire, un espace de visibilité a été aménagé dans les quartiers diplomatiques de Rabat. On y diffusera chaque jour les matchs de la CAN et ce sera aussi un lieu de rencontres pour nouer des partenariats de développement avec la RDC tout en faisant découvrir sa culture, sa gastronomie et ses atouts touristiques. Plus d'éclaircissements avec vous, Dona Madimba Mbaya.
Ce projet et le site choisi porteront le nom de Léopard Business Village Expo Cannes 2025. Et selon le ministère du Tourisme et la structure de marketing RDC Stratégie qui vont réaliser ce projet, ça sera comme si l'ambassade de la RDC s'était transformée en fan zone, pas seulement pour accueillir les gens qui viennent regarder les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais aussi où ils viennent apprendre tout sur la RDC, sa situation géographique, sa culture, sa gastronomie, ses problèmes, son potentiel touristique, stratégique et économique, ses forces et ses faiblesses en permanence pendant un mois et tous les jours du matin au soir. Les visiteurs y trouveront donc tous les interlocuteurs de haut plan pour les y accueillir, les renseigner et, si nécessaire, signer des contrats de haut niveau avec eux dans tous les secteurs. Et tout cela dans une atmosphère en permanence conviviale. Il y aura donc sur le site Léopard Business Village à Rabat, par exemple, des officiels, responsables d'entreprises congolaises et entrepreneurs de tout genre pour atteindre ces objectifs, des expositions, dégustations, réflexions et conférences aussi sont prévues sur ce site. Deux cérémonies grandioses sont elles aussi prévues, une au début et une dernière à la fin de ce projet.
La campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basée sur les genres a été lancée ce mardi à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Des centaines de femmes issues de différentes couches de la communauté et d'associations féminines locales ont pris part à cette activité. Elles ont été sensibilisées à prendre le courage de dénoncer les abus et violences dont elles sont victimes afin de décourager leurs auteurs. Marc Marofimbo pour plus de détails.
Après un carnaval, le long du boulevard Nyamwisi, ces femmes se sont réunies dans la salle des Sœurs des Orantes, située dans la cité de Beni. La dénonciation des cas de violence dont elles sont victimes a été au centre de cette sensibilisation, comme l'explique Kaindo Safi Mwole de la dynamique des femmes juristes de Beni.
Pour les victimes, la journée d'aujourd'hui représente un jour où on les appelle à ne pas se taire, à hausser leur voix, à dénoncer toutes les violences qu'ils subissent afin de prévenir les violences qui peuvent être subies par certaines autres.
Pour la chef du bureau urbain du genre, famille et enfants, un changement de comportement est nécessaire pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Ruth Sabouni.
Ce qui freine, c'est la conscience seulement, question de volonté de chaque personne. Le jour où les hommes arriveront à bannir le pouvoir qui domine les autres, il y aura un monde sain, un monde où il n'y aura plus de discrimination, même de violences qui vont se commettre, parce qu'au moins on vivra dans une communauté plutôt où il y a l'égalité, où il y a un dialogue, où il y a une collaboration.
Pendant 16 jours, les activités se concentreront sur les thèmes localement choisis, Nord Kivu pour un espace sûr, protégeons les femmes et les filles contre les violences en ligne. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons dans la province pour parler de la journée internationale de la jeune fille, une journée consacrée à la promotion des droits des filles et à la lutte contre les inégalités qu'elles subissent, célébrée ce mardi 25 novembre. À Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, les jeunes filles vivant avec handicap appellent les gouvernements à se pencher sur les discriminations dont elles sont victimes au sein de la communauté. Lors d'une conférence organisée pour l'occasion par le chef de bureau Genre, Famille et Enfants du gouvernement provincial, Abigail Kaliki, jeune fille vivant avec handicap, a rappelé l'importance de cette journée pour valoriser et défendre les droits des filles en situation de handicap. Elle s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
La journée internationale de la jeune fille représente les droits de la fille. Nous sommes dans de différentes sociétés. Nous aussi, nous avons le droit de vivre dans la communauté égale comme les autres. Je suggérerais que le gouvernement puisse aussi nous intervenir en aide dans les écoles, dans partout dans la société. Nous aussi, nous avons besoin de tout ce que les autres ont besoin. Je veux dire, par exemple, lorsque nous sommes dans des écoles, nombreuses personnes ils se moquent de nous. Nous n'avons pas le droit de s'exprimer devant aussi les autres parce que nous savons que nous sommes des personnes handicapées. Nous ne sommes pas en mesure de nous exprimer. Une fois nous nous exprimons, les gens diraient, je veux dire, par exemple, toi tu n'es qu'un handicapé. Qu'est-ce que toi aussi tu peux dire comme idée? Alors, je souhaite que le gouvernement puisse intervenir dans la sensibilisation dans différentes écoles, différentes églises, dans la différentes sociétés, pour montrer aussi que la fille handicapée est aussi égale aux autres.
L'activité s'est clôturée par la signature par les autorités locales d'un acte d'engagement solennel visant à protéger et promouvoir les droits de la jeune fille en province du Nord Kivu. Plus de 40 000 réfugiés en provenance du Soudan du Sud se sont établis dans les territoires d'Arou, dans la province de l'Ituri depuis le mois d'avril dernier, sans aucun encadrement de la part des services publics, indique le député national Amoule Arakayo Kizito. Cet élu d'Arou redoute que cette présence massive des personnes en provenance d'un pays en guerre ne puisse créer des tensions avec les communautés locales. Tout en reconnaissant les sacrifices consentis par la Commission nationale pour les réfugiés et les hauts commissaires commissariat aux réfugiés dans la gestion de cette situation. Le député Amoulé estime que le gouvernement central devrait s'impliquer de manière active et efficace afin d'apporter des réponses appropriées à ce problème. On écoute Amoulé Arakayo Kizito qui répondait aux questions de Guy Maté.
Nous avions constaté l'arrivée massive des réfugiés sud-soudanais au mois d'avril. À ce moment-là, il comptait aux environs de 15 000 réfugiés. Au même mois d'avril, j'avais fait une motion d'information à l'Assemblée nationale pour alerter les autorités. Au mois de mai, ils étaient déjà aux environs de 23 000. Aujourd'hui, nous comptons plus de 30 à 40 000 réfugiés. Si vous voyez une masse pareille dans un millier quelconque, vous savez ce que ça doit faire. D'abord, ça va créer une tension interne avec la communauté. Parce qu'ils vont se disputer les terrains, ils vont se disputer l'endroit, ils vont se disputer beaucoup de choses là. D'abord, si vous voyez ce que les gens en font dans les milliers, c'est juste les petits champs. Maintenant, cette présence là-bas de nécessité, qui est maintenant une pression sur ces mêmes biens-là, ça va vraiment désorganiser la situation et ça va créer une tension interne que nous voulons éviter. Moi, je souhaite à ce que le gouvernement s'implique dans cette situation. Naturellement, aujourd'hui, avec la situation que nous vivons à Arou, il faut que Arou soit décrété une zone humanitaire.
Des dizaines de leaders d'opinion et d'expression participent du 25 au 27 novembre à l'atelier sur la maîtrise des fondamentaux de la démocratie à Kinshasa, à l'initiative de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections simoncelles. Cette session de 3 jours vise à faire des participants des acteurs structurants de la consolidation de la démocratie en RDC. Le coordonnateur de cette organisation explique que cet atelier se propose également d'amener les leaders d'opinion à planifier des actions de communication sur les réformes électorales à l'approche des joutes électorales de 2028. Luc Loutala l'a dit au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
L'opinion se façonne par la communication. Nous nous sommes dit, la Simoncelle n'est pas le seul. Il y a tous les différents acteurs qui doivent communiquer, qui doivent interagir pour construire la démocratie et la citoyenneté. Mais on se rend compte que dans la communication, les gens ne maîtrisent pas les fondamentaux de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la gouvernance, la citoyenneté, la redevabilité, qui sont là les notions des bases sur lesquelles repose en réalité la solidité de la construction d'une nation qui avance. Et donc cet atelier vise à améliorer les connaissances des communicateurs, des leaders d'opinion dans ces notions des bases, afin de leur doter des outils qui leur permettent de comprendre non seulement exactement la température du pays tel que les choses se passent, mais aussi de les doter des outils, des communications qui correspondent exactement à la démocratie que nous voulons construire. Il est important qu'on connaisse c'est quoi la démocratie, parce que après les gens se disent « Oh, la démocratie est impossible ». La démocratie n'est pas impossible. Mais l'autre notion de base, c'est la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? Donc on va toucher à la redevabilité. Et à part la redevabilité, il y a la citoyenneté elle-même.
Dans la province de la Tchopo, le gouverneur intérimaire a déposé hier mardi 25 novembre au bureau de l'Assemblée provinciale le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Ce budget est évalué à plus de 420 milliards 414 millions de francs congolais. Il est équilibré en recettes tout comme en dépenses. Selon le gouverneur des provinces par intérim Didier Lomoyo Iteku, ce projet d'édit budgétaire s'articule autour de quelques axes prioritaires dont les infrastructures, la sécurité et la bonne gouvernance. Ces propos ont été recueillis par Jacques Mokonkole.
Il faut tenir compte de la stabilité des institutions provinciales, assemblées provinciales et gouvernement provincial, tel que recommandé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre budget tient également compte de la sécurité. Il faut que le secteur de la sécurité soit très bien protégé parce que nous devons protéger la population, nous devons lutter contre des bandits armés, nous devons lutter contre tous ceux qui veulent mettre la province en feu et en sang. Nous devons donc lutter contre l'insécurité urbaine ainsi que tous ses corollaires. Le budget tient également compte des infrastructures. Il y a des infrastructures routières spécialement sur lesquelles nous devons nous baser pendant l'exercice 2026. Parce bien que le chef de l'État fournit déjà des efforts considérables en asphaltant plus de 100 km de voirie de la ville de Kisangani, nous de notre côté nous devons également nous atteler à certains axes routiers, que ce soit en terre battue ou en béton, comme cela est le cas au niveau du rond-point Canon jusque Congo Palace. Voilà un peu les grands axes sur lesquels est fondé le projet de budget exercice 2026.
Rappelons que peu après son retour de Kinshasa lundi, le président de l'Assemblée provinciale Mateus Kanga a déclaré attendre le dépôt de ce projet d'édit budgétaire par l'autorité provinciale en vue de son examen au cours de cette session de septembre.
Actualité internationale.
Lors d'une réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine organisée mardi 25 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué à ses alliés qu'il était prêt à aller de l'avant avec les nouveaux plans américains pour mettre fin à la guerre contre la Russie, mais que celui-ci contenait encore des points sensibles qu'il souhaitait discuter avec Donald Trump.
L'invité.
L'invité de la rédaction est le député provincial de Kindu, Blaise Bitangalo. Face à la mauvaise qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile au Maniema, il interpelle ces entreprises sur leur responsabilité d'améliorer la qualité du réseau et de mettre fin aux pratiques qu'il qualifie d'escroquerie. Dans une motion incidentielle, il demande à l'organe délibérant de convoquer les responsables de Vodacom, Airtel et Orange afin qu'ils viennent s'expliquer et éclairer l'opinion publique. Blaise Bitangalo répond aux questions de Florence Kizalunga.
Blaise Bitangalo, bonjour.
Bonjour Madame Kizalunga.
Pourquoi aujourd'hui saisir l'Assemblée provinciale par rapport à la situation du service des maisons de télécommunications dans notre province?
Madame, d'ailleurs c'est vous qui êtes mes témoins les plus privilégiés parce que vous êtes les hommes des médias. Vous connaissez que les maisons de télécommunications sont en train de torpiller les intérêts des maniémiens dans le cadre des télécommunications. Moi, j'ai pensé que c'était une vente qui se faisait, mais je trouve par conséquent c'est une croquerie à ciel ouvert. Dans quel sens, madame? C'est parce que quand on achète les unités, on suppose qu'on doit les épuiser comme il se doit. Mais vous achetez les unités avec un moratoire pendant 24 heures ou 72 heures selon les coûts que vous aviez donné. Mais vous n'arrivez pas à épuiser vos minutes. Les réseaux compliquent. Ils ne s'excusent même pas. Ils ne font même pas la compensation par rapport aux unités que vous avez payées. Au moment où nous nous différons, il y a des gens, il y a des cultivateurs, il y a des étudiants, il y a des malades à l'hôpital qui doivent demander par exemple de l'argent aux membres de la famille, mais les messages font 2-3 jours pour atteindre la destination. C'est à ce titre que nous avons dit trop c'est trop. Par exemple, pour Vodacom, c'est plus de 20 ans. Vodacom a fêté ses 20e année d'anniversaire depuis ses prestations. Et nous nous sommes dit, quand quelqu'un fête 20 ans, il devient majeur. Et majeur, pas seulement pour la maturité, mais pour aussi l'organisation et la qualité des services qu'il est en train de rendre à la population. C'est dans ce cadre-là que nous avons estimé qu'ils viennent devant la représentation provinciale, qu'on leur demande qu'est-ce qui ne marche pas et comment ils peuvent améliorer pour que notre population soit remise dans ses droits les plus légitimes.
Est-ce que vous êtes soutenu par vos collègues dans votre démarche ici?
Bien sûr que oui, madame, parce que c'est quelque chose qui est légitime. Vous voyez, même les Français disent, lorsque vous dites quelque chose clairement, et les mots pour le dire viennent aisément, et c'est convaincant parce que tous on est victimes, toute la population, même vous les journalistes. Vous êtes victime. Est-ce que votre communication est stable? Cette histoire ici concerne tout le monde. C'est une cause commune. Si vous avez déjà acheté un téléphone, si vous avez déjà payé les unités, vous êtes concerné. Et donc, toute catégorie confondue, on est tous victimes. Et c'est pourquoi les maisons de télécommunication que je cite, Vodacom, Airtel, Orange, doivent nous remettre dans nos droits les plus légitimes. À défaut de ça, on ira jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, la démarche que vous commencez aujourd'hui, jusqu'au bout, c'est jusqu'où?
Jusqu'à l'autorité suprême, non? Lorsque ça ne va pas en province, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer, on va saisir toutes les instances politiques, administratives et judiciaires pour que nous soyons remis dans nos droits les plus légitimes. Ce sont les maniémiens qui commencent, on est victime, on ne peut pas croiser les bras parce qu'on nous dit par une maxime de droit, celui qui peut et n'empêche pas, pêche. Et comme moi, en tant qu'élu du peuple, si je suis incapable d'empêcher ce traitement inhumain que rencontre ma population, je pêcherai. C'est à ce moment-là que je me dis, moi pour éviter que je sois complice à ce qui s'est fait, je vais dénoncer, je vais poursuivre par les moyens légaux pour que ma population soit remise dans ses droits les plus légitimes.
Les maisons de télécommunications en province travaillent sous l'égide des autorités provinciales. Est-ce que vous avez pu penser aussi rencontrer les autorités provinciales pour cette fin?
Nous avons discuté avec plusieurs autorités quant à ça, mais l'orgueil des maisons de télécommunications dépasse les bornes. Il y a même Lucha, Filimbi et Société Civile qui se sont mis dans la rue. Rien n'a changé. Et toujours les pertinences. situation. C'est à ce titre que nous nous sommes dit, en tant qu'élus du peuple, parce que nous représentons ces peuples-là, nous devons nous assumer. C'est dans ce cadre-là, en âme et conscience, que j'ai introduit ma motion incidentielle pour que ma population du Maniema soit remise dans ses droits les plus légitimes. Dans toute l'étendue de la province du Maniema, toute la population est victime par rapport au traitement des maisons de télécommunications installées au Maniema.
En titre illustratif, est-ce que vous avez déjà eu les plaintes de vos électeurs qui viennent auprès de vous par rapport à ces maisons de communication?
C'est toute la population, je vous dis, à partir de Punia, Lubutu, Kabambare, Kasongo, Pangi, Kibombo, dans la ville de Kinu, n'en parlons même pas, les gens m'appellent jour pour jour à cause de ça. Les gens sont victimes, il y a ceux qui meurent à cause seulement d'une mauvaise communication. Alors c'est à ce titre que nous nous sommes dit, arrêtons quand même trop, c'est trop. Et nous nous mettons debout, c'est l'occasion qu'on arrête cette histoire. La récréation a été longue et doit quand même cesser. Donc la population est en train toujours de perdre, et dans la transaction, et dans la communication, même dans les envois des SMS et WhatsApp, n'en parlons même pas.
Vous voulez que cette situation prenne fin?
Oui, exactement, c'est ça notre souci. Si ça prend fin, nous nous arrêtons là.
Blaise Bitangalo, je vous remercie.
Merci beaucoup madame, c'est moi qui vous remercie davantage.
C'était notre invité, le député provincial Blaise Bitangalo, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à cette édition du Journal du Matin, coordonnée par Vicky Odiambala, supervisée par Pauli Mouzalia. La mise en onde est assurée par Jean-Claude Nsialamwana Makengon Tswalo. Ce journal est disponible sur toutes les plateformes numériques de votre radio, ainsi que sur son site internet www.radiocapi.net.